plaisir d'accueillir Sylvie Joanne que j'avais eu le plaisir de diriger sur son Master 1 il y a quelques années, en 2007-2008, sur le temps libre. Donc c'est finalement uniquement sur ces données ici qu'on va parler. Donc évidemment c'est elle qui va présenter ces données. Je vais vous donner la parole tout de suite. Moi ce que je voulais simplement noter, c'était d'une part, bien comme vous le voyez, on est dans quelque chose qui, je ne sais plus comment ça s'est travaillé dans la négociation de la définition de l'objet. Disons que c'est un travail qui m'intéressait d'autant plus qu'il était assez proche de ma manière de travailler, c'est-à-dire d'essayer d'abord de capter le point de vue des enfants. J'ai proposé de réinscrire cette recherche que vous avez faite, et telle que vous l'avez aussi ensuite développée dans votre mémoire, à l'intérieur d'un champ de recherche qui me semble important à identifier comme tel. Alors, l'anthropologie de l'enfance, on pourrait dire la socio-anthropologie de l'enfance, puisqu'on était sur les deux disciplines conjointes dans ce travail. Et il me semble qu'on est bien sur une recherche qui se situe dans cette socio-anthropologie de l'enfance, dans le sens, d'une part, où on a une enquête auprès d'enfants, d'autre part, où on s'attache particulièrement à l'étude des enfants entre eux, c'est-à-dire tout ce qu'ils produisent entre eux, comme on l'a eu juste précédemment. On voit bien cette question de l'univers juvénile. Ici, donc, de manière plus large, je dirais qu'on est sur ce que j'appelle les relations des enfants entre eux, c'est-à-dire leurs relations sociales, leurs relations culturelles. Et puis, troisièmement, tout cela suppose d'avoir comme ambition, comme but plus ou moins atteignable ou non atteignable, celui de saisir le point de vue des enfants. Et au-delà, disons, de cette démarche de chercheur, il me semble qu'on peut aussi réfléchir, en tant que chercheur ou apprenti chercheur, aux effets de notre recherche sur la société dans laquelle on est. Et autrement dit, qu'est-ce qu'il y a là d'original, comme message peut-être à passer à une société qui voit surtout les enfants comme des êtres en devenir, comme des êtres éduqués par les adultes, donc dans cette vision verticale. Il s'agit donc, il me semble, de les rendre attentifs à ce que les enfants apprennent entre eux ou comment ils se construisent à partir de ce qu'ils reçoivent des adultes, mais aussi à partir d'autres choses qu'ils ne reçoivent pas forcément des adultes. Voilà, donc c'est cette attention, du coup, en partant non pas des institutions qui s'occupent d'éduquer, la famille, en l'occurrence les parents ici, ou l'école, en l'occurrence les enseignants, où là on a une sociologie de l'école, une sociologie de la famille, mais bien de penser une sociologie de l'enfance, qui parte des enfants pour penser les questions. Et on a donc par conséquent des résultats différents. Voilà, donc je voulais juste signaler, parce que je ne suis pas sûre que Sylvie le dise juste après, qu'on est face à un travail d'enquête absolument remarquable, avec énormément de données, que j'ai donc eu envie de réutiliser donc par rapport à non seulement à une intervention, à un colloque sur le bien-être, où je me suis dit que cette idée de temps libre et de questionnement sur temps libre égal ou non bien-être était une bonne manière de rentrer sur cette problématique du bien-être, qui était quelque chose que je n'avais pas spécialement étudié a priori, plus largement d'être attentif aussi au fait que le temps libre, quelle est la dimension entre enfants dans ce temps libre, quelle place prend cette dimension entre enfants dans le temps libre tel que le racontent ou le vivent les enfants.
Et donc, comme vient de vous le dire Madame de Lalande, donc ce travail-là, c'est un travail de Master 1, donc, qui date déjà de quelques années, de 2007-2008. Donc il a été réalisé. Donc je suis partie à la recherche du point de vue des enfants, et je souhaitais les entendre sur leur pratique et leur représentation sur le temps libre. Donc c'est un travail de recherche qui a été réalisé au sein d'un collège, donc un collège canet de centre-ville. La population choisie c'était des enfants de début de collège, donc trois classes de sixième, 68 élèves exactement. Alors pourquoi cet âge? Pourquoi j'ai choisi cet âge-là? C'est parce que il m'a semblé important, pour parler du temps libre, de penser à un âge où il y avait une rupture. Donc on parlait justement tout à l'heure dans l'exposé précédent là, donc de ces ruptures, de ces changements du primaire au collège. Et donc là, il me semblait que c'était important d'avoir leur point de vue à cet âge, lorsque leur rythme scolaire est complètement chamboulé. Donc pour obtenir à la fois des données quantitatives et qualitatives, j'ai utilisé donc plusieurs outils. Il a d'abord été donné aux enfants un questionnaire. Donc, qui a été rempli là, par tous les élèves. Et à la fin de ce questionnaire, à la suite de ce questionnaire, j'ai proposé aux enfants de remplir des carnets. Donc, je leur ai fourni un petit carnet sur lequel je leur ai proposé d'écrire leur déroulement de journée, le déroulement d'une semaine en y notant leurs horaires et leurs différentes activités. Il y a eu 24 carnets de compléter. Donc, j'étais très agréablement surprise. Parfois, il y avait 3 jours, évidemment, et puis d'autres fois, une quinzaine de jours. Et puis ensuite, j'ai fait passer des entretiens individuels pour certains, et puis en petits groupes, donc une vingtaine d'entretiens en parallèle. Donc ce qui me semble important de vous dire, c'est que en partant à cette quête de données, j'étais partie un peu avec mon point de vue d'adulte, et j'étais persuadée que les activités extrascolaires allaient de toute évidence empiéter sur le temps libre des enfants, et qu'ils allaient me parler de ces activités-là comme quelque chose qui leur prenait du temps. Et j'imaginais que temps libre pour eux, c'était complètement en dehors de ces activités extrascolaires. Et si j'avais en fait cette idée-là, cette pensée-là, je crois que je me situais en tant qu'enseignante. Donc je suis enseignante en premier degré, en primaire. Et j'avais le souvenir, le témoignage de certains enfants, des fois dans la classe. En particulier, je me souviens d'un enfant qui m'avait dit oh, « Quelle journée déjà, maîtresse, aujourd'hui, le mardi, ah oui, mardi, ouf, aujourd'hui, j'ai rien, j'ai pas d'activité. » Donc voilà, j'étais partie avec cette idée que les activités extrascolaires ne faisaient pas partie du tout du temps libre pour les enfants. Et ça n'a rien d'évident d'ailleurs, donc du point de vue des résultats de mon enquête. Donc, à cette question ouverte, il y a une question ouverte qui leur a été proposée dans le questionnaire. Pour toi, que signifie le temps libre? Donc, à cette question, les enfants ont répondu dans le sens de ce que nous dit un sociologue, Joël Zaffran, qui écrit dans son ouvrage « Les aspirations des adolescents sont relativement simples, puisqu'en les interrogeant sur la signification de l'expression « avoir du temps libre », on constate que les réponses s'organisent autour de l'amusement, du plaisir, du divertissement et surtout de la liberté. » Donc tous ces éléments, évidemment, reviennent dans les réponses des enfants. Mais il est aussi question du repos. Donc, et d'un temps libre qui pour eux signifierait un temps vide, c'est-à-dire ne rien faire. Voilà, donc pour certains, le temps libre, c'est la recherche d'un temps vide, se reposer, ne rien faire. Hein. Du temps où l'on peut se reposer, comme nous le dit Élise. Faire du sport, hein, non. Moi, je préfère garder mon temps pour être libre, me dit Bastien. Quant à Romain, c'est n'avoir plus rien à faire, le temps libre. Je voudrais du temps pour me reposer, ne rien faire, nous dit Christopher. Prendre de l'énergie et après ça peut repartir. Donc ça, c'est pour les enfants qui mettent en évidence donc ce temps libre comme étant un temps de repos, à ne rien faire. Mais donc, à ma grande surprise, puisque je partais avec mon point de vue déjà un peu construit, le temps de libre pour un certain nombre d'enfants, c'est un temps en fait à remplir, et leurs activités extrascolaires font partie pour eux du temps libre. Donc j'ai relevé des témoignages d'enfants. Le temps libre, nous dit Hortense, c'est quand je suis au cheval, le mercredi. Et il y a des enfants aussi qui parlaient de ces activités comme des activités dont ils manquaient finalement. Et que pour eux, ça serait venu s'ajouter à du temps libre. Donc comme Ninon qui me parlait justement de trop de responsabilités qu'elle avait vis-à-vis de ses petits frères et sœurs. Et elle disait qu'elle aimerait avoir du temps pour elle. Et que si elle avait du temps pour elle, elle ferait des activités. Donc le témoignage de Salomon, si j'avais plus de temps, si j'avais un temps infini, j'aimerais bien faire tous les sports. Donc on avait vraiment l'expression de certains enfants qui avaient envie de remplir du temps justement pour eux. Si je pouvais, je ferais d'autres sports, parce que des fois, je m'ennuie, nous disait Mathieu. Alors, le temps libre, il est pensé pour certains enfants en fonction du travail scolaire. 15 enfants sur 68 ont tout de suite associé temps libre aux devoirs, à l'école. Le temps libre, c'est quand j'ai fini mes devoirs, m'a dit Mathias. Ou alors Juliette, un temps pour jouer, s'amuser, mais surtout sans devoirs. Pour Marie, donc, le temps libre, c'est tout simplement faire autre chose que des devoirs. Mes parents veulent que je travaille, même quand j'ai pas de temps libre, nous dit Jonathan. Le collège sans devoir, ce serait le paradis sur Terre. Bon, je crois que c'est assez fort. Oui, donc voilà, je crois que c'était important de souligner, donc de mettre ces résultats pour souligner le fait que temps libre pour certains enfants, c'était immédiatement associé à pas de devoir, pas d'école. Ils le pensaient, ils pouvaient pas le penser autrement que en lien avec l'école. Donc évidemment, cet âge de début de collège, c'est un âge où les pères sont importants, prennent une place très importante dans la vie, comme avant ou après d'ailleurs. Mais... Donc là, ça a été vraiment fortement exprimé que le temps libre devait être un temps d'échange entre pères. Pour de nombreux enfants, il était important, pendant ce temps libre, de retrouver les copains et copines. S'il n'avait pas de devoir, nous dit Marie, je m'amuserais dehors, j'irais faire du roller avec les copines. Le temps libre, c'est quand je fais du jonglage ou du skate dehors, et encore plus quand je suis avec mes frères, dit Jérémy. Dès que je ne suis plus à l'école, je m'ennuie, parce que je n'ai plus de copines. Je voudrais faire du cheval avec des copines qui en font. À plusieurs reprises, des enfants m'ont exprimé cet ennui, et ce temps finalement qui pour eux n'est pas un temps à eux, n'est pas un temps libre, puisqu'ils n'ont pas la liberté et la possibilité de retrouver les copains-copines. Finalement, le temps libre, ce serait pour eux retrouver les copains-copines. Quand je rentre du foot, je vais voir sur MSN s'il n'y a personne. Je m'ennuie. Parfois, j'ai plus de 10 personnes connectées. Comme ça, je ne suis pas seule le week-end quand j'ai du temps, me dit Mathieu. Donc ça, c'est revenu à plusieurs reprises, évidemment, ce besoin de communication. Donc là, j'ai repris une citation d'un livre sur la démographie des pratiques médiatiques des jeunes Français. Tout à fait intéressant d'ailleurs. Nous noterons l'existence de deux sphères médiatiques, nous dit Josiane Jouet et Dominique Pasquier, l'une féminine, organisée autour du téléphone et de la radio, et l'autre masculine, organisée autour des écrans, ordinateurs et jeux vidéo. Les garçons se démarquent des filles en ce qui concerne l'usage des jeux vidéo, tant par la fréquence de la pratique que par la durée d'utilisation des consoles ou l'intérêt manifesté pour cette activité. En revanche, les filles écoutent plus souvent la radio que les garçons, les cassettes et les CD. Enfin, les filles utilisent plus le téléphone que les garçons, et pour des raisons bien différentes. Alors, cette différence entre garçons et filles, je l'ai énormément retrouvée dans leurs carnets. Les carnets qui avaient été remplis donc par les filles, il était noté... je téléphone à mes copines, je communique avec mes copines, je suis sur MSN, etc. Vraiment, cette communication avec les copines, elle était notée. Sur les carnets des garçons, pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'ils ne téléphonent pas du tout aux copains, ou est-ce que c'est pas, donc pour d'autres raisons, comme nous disent les chercheurs, ou est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps de le noter, je ne sais pas. Mais il en reste que eux, par contre, notent leur temps de jeux vidéo. Ordinateur, jeux vidéo, c'était vraiment inscrit très souvent sur leur carnet. Donc voilà, il me semblait important de souligner cette différence garçons et filles. Bon, maintenant, comme tout va très vite, on parlait des vêtements tout à l'heure, mais c'est aussi vrai pour toutes ces activités médiatiques. C'est une recherche qui date de 2007-2008, nous sommes déjà en 2011. Avec l'utilisation de Facebook, maintenant, je pense qu'il y a énormément de changements, et que les garçons maintenant utilisent davantage ce nouveau moyen de communication et ils passent plus de temps. Donc je pense que ce serait sans doute intéressant maintenant de refaire ce genre d'enquête et de pouvoir comparer. Je crois que les données auraient vraiment changé. Il serait intéressant également, si j'avais pu donc prolonger ce travail, l'élargir, en tout cas l'étendre, il aurait été très intéressant d'enquêter auprès des parents. Qu'est-ce qui est le temps libre pour les parents? Quel temps ils accordent? Quel temps libre ils souhaitent accorder à leurs enfants? Et puis aussi par rapport à tout ce qui est activité extrascolaire. Est-ce que le choix des activités extrascolaires ne revient qu'à leurs enfants, ou est-ce que ce sont les parents qui sollicitent? Est-ce que c'est bon, moi, dans les différents entretiens que j'ai fait passer, je n'ai pas senti de pression parentale auprès des enfants. Ils ont tous exprimé des activités qu'ils avaient choisies. Mais maintenant, bon, s'il était possible d'enquêter auprès des parents, je pense qu'il y aurait sans doute des données différentes. Et comme nous le disions tout à l'heure, en fonction des milieux, si on faisait une enquête, je sais pas, sur Paris, ou si on fait une enquête dans un autre milieu, en milieu difficile, ce serait certainement complètement différent.
Alors, quelques points de réflexion par rapport à toutes ces données. Je pense qu'on a vu qu'on est entre des termes tels que détente. Enfin, on peut lire à travers, finalement, ces citations, l'idée soit de détente, soit de décompression, soit de plaisir. On a parlé aussi de cette notion de plaisir tout à l'heure qui était forte chez les enfants. On peut essayer de chercher si on est sur un temps libre pour le bien de l'enfant, pour son bien-être. Est-ce qu'il y a des distinctions entre bien de l'enfant, bien-être? On voit que l'appréciation de ce qu'est un temps libre est fonction de la représentation qu'on a de ce qu'est le bien de l'enfant, hein, puisque ce temps libre doit être pensé en fonction de cette notion de bien de l'enfant ou pour son bien-être. Quelques idées autour de ce thème. Donc, d'une part, première idée, sortir d'un adultocentrisme et être à l'écoute des enfants, le bien-être selon chaque enfant. Il me semble que dans notre société, on l'a vu aussi dans une approche plus large aujourd'hui, ce qui caractérise l'enfant aujourd'hui chez nous, c'est le statut d'écolier, hein, ou de collégien, lycéen. C'est comme ça qu'il obtient son statut social, sa reconnaissance, et ça lui permet donc d'être valorisé, hein, ça lui donne une reconnaissance, donc ça le valorise, mais en même temps c'est un statut qui l'enferme, et on voit bien comment beaucoup d'adultes, beaucoup de parents en particulier, pensent le temps libre de leurs enfants en lien avec ce statut d'écolier de leur enfant. Donc en lien avec l'école, soit en le remplissant d'activités extrascolaires. Alors ici, on a bien sûr des différences en fonction des milieux sociaux, hein, des recherches qui ont été faites sur les temps libres en fonction des milieux sociaux montrent par exemple que ce sont les enfants de cadre qui vont chercher des activités extrascolaires qui seraient bénéfiquement rentables, bénéfiques à l'apprentissage scolaire, hein, qui seraient rentables par rapport à un projet scolaire. Voilà, alors on a ce critère-là. Est-ce qu'on est donc sur ce critère-là? Est-ce qu'on est sur pour son bien donc par rapport à cet apprentissage scolaire, ou bien pour son bien en valorisant le plaisir qu'il va y mettre, ou bien pour son bien aussi en valorisant la dimension physique, saine d'une activité sportive, hein, qui peut-être aussi pour contrebalancer une activité d'écolier qui est très statique et par rapport à une population citadine qui donc a perdu tout un ensemble d'activités par rapport aussi aux questions d'obésité, de santé publique, etc. On peut imaginer que ces préoccupations-là se retrouvent dans les points de vue des adultes. Donc, en dehors de ces choses-là, on s'aperçoit aussi que, à travers différentes études, hein, les vôtres et d'autres, que le temps libre des enfants est aussi dépendant de la manière dont les parents pensent leur temps libre, ou plus largement, quel rapport les parents entretiennent avec le temps, hein, quelle relation ils ont avec le temps. On parle beaucoup aujourd'hui, on en est nous-mêmes victimes dans nos métiers souvent, d'une société qui va de plus en plus vite, hein, et d'un sentiment de courir après le temps, en même temps d'un temps très plein, hein, ce qu'on retrouve dans votre enquête, tout à fait. Donc, on peut penser qu'il y a une relation entre le rapport au temps libre tel qu'il est vécu par les enfants et le rapport au temps libre de leurs parents, ou au temps plus largement. Hein, en particulier, ce qu'on remarque, c'est la sensibilité, évidemment, des enfants au stress des parents dans leur rapport au temps. Hein. Juste après, je vous... je vous montrerai, si vous voulez le faire, faire circuler éventuellement, Charles-Édouard, ce petit « J'aime lire », un numéro de « J'aime lire ». Alors malheureusement, je n'ai pas le temps de vous lire toute l'histoire, donc je vous en donnerai juste de petites images après, mais qui raconte, alors bon, je vous la mets, je vais retourner après sur l'image suivante, qui raconte... voilà comment un enfant, donc c'est un garçon qui vit, qui est fils unique et qui vit avec sa mère, qui est séparée de du papa, donc. Et donc la mère a un emploi du temps surbooké, et il va surbooker aussi l'emploi du temps de son enfant. À son anniversaire, c'est le titre du livre, Joyeux anniversaire, elle offre à son enfant un agenda pour qu'il puisse remplir toutes ses activités, etc. Et finalement, c'est l'anniversaire du copain. Le garçon dit, bah non, je pourrais pas venir à ton anniversaire parce que j'ai judo, etc., toutes mes activités. Et par exemple, j'avais noté qu'au moment où elle lui offre cet agenda, la mère lui dit, tiens, tu n'as rien mardi, ça te dirait de faire la natation ? Le temps, c'est précieux, il ne faut pas le gâcher. Hein. Donc il y a beaucoup de phrases comme ça. Je remarque vraiment le travail de l'auteur est intéressant parce qu'elle a vraiment su mettre en mots, hein, comme ça, de manière très significative, des phrases qui montrent des rapports au temps différents entre la mère et son fils. Et finalement, le copain, hein, c'est l'image de gauche ici, il faut réagir. Le copain qui a son anniversaire auquel le héros de l'histoire ne pourra donc pas aller a priori à cause de ses activités, lui dit mais il faut réagir, il ne faut pas te laisser faire. Regarde, il y a les manifestations en ce moment dans la rue, fais pareil, il faut que tu fasses grève, etc. Donc il monte tout un plan d'attaque et il va donc s'enfermer dans les toilettes, c'est la page de droite. Avec des vivres, etc., pour pouvoir tenir un siège jusqu'à ce que sa mère cède c'est même pas cède, c'est l'entendre, c'est-à-dire que sa mère ne l'entend pas. Hein. Donc le point de vue de l'enfant, là, on est vraiment exactement sur ce que je vous propose comme analyse un peu simplifiée, mais d'un point de vue d'enfant qui n'est pas entendu. Et alors vous ne pouvez pas ici peut-être lire les textes, mais... Maman demande d'une voix fatiguée, c'est tout. Non, je continue avec encore plus de difficultés, cette difficulté à dialoguer. Pour Noël, je veux un cadeau qui me plaise à moi et pas à toi. Il y a un silence. Maman est soufflée par ma remarque. Et quel est ce cadeau ? Demande-t-elle en s'attendant au pire. Je voudrais, pour Noël, je voudrais un robot Dexter lance-torpille. Voilà. Donc, vraiment. Alors qu'elle, évidemment, est contre les jouets de guerre. Hein, voilà. Donc, on voit que les différentes impositions, comme ça, du point de vue de la mère, se retrouvent aussi dans ces jeux. Et il obtient, finalement, d'aller à l'anniversaire de son copain. Et voilà, il y a un dialogue qui se fait avec sa mère face à cette stratégie quand même qui demande du temps et de la réflexion, hein, pour amener la mère à entendre. Je voulais revenir sur l'analyse pour dire que on a d'une part ici donc une valorisation de l'enfance qui passe par ce travail d'écolier, mais en même temps qui peut être enfermant et qui peut être vu aussi au-delà de sa dimension positive évidente pour ses dangers ou ses travers. Si bien que le sociologue Wortrup parle d'une colonisation des enfants par l'école, par ce travail d'écolier, que l'on peut d'autant plus entendre hein, si on pense aussi à cette colonisation du temps en dehors de l'école, par le temps de l'école. Et puis finalement, dernière réflexion que je vous propose sur la préadolescence. On est ici donc sur des enfants qui sont en sixième, qui sont dans cette préadolescence, où on est sur les prémices d'une plus grande liberté d'action et de décision, selon Sylvie Octobre, sur une valorisation des relations entre pairs, selon François de Saint-Gly, hein, que vous avez tout à fait retrouvé dans votre enquête. On est donc sur des enfants qui vont davantage imposer leurs choix, hein, et en particulier valoriser cette relation entre enfants que vous avez retrouvée dans la pratique Nemesen, indiquée dans les carnets, qu'on retrouve dans ce J'aime lire que je viens de vous proposer comme matériau. Hein. On voit l'intérêt d'ailleurs d'utiliser un matériau tel que la littérature enfantine pour alimenter une réflexion. Voilà, et finalement, finalement, pour revenir à cette notion de bien de l'enfant, bien-être ou encore l'intérêt de l'enfant, hein, si on pense à cette formule de la Convention internationale des droits de l'enfant à laquelle on a pu faire allusion aujourd'hui, on pourrait dire au moins, hein, au minimum, qu'on voit bien comment ces notions ne peuvent être pensées en faisant l'économie du point de vue de l'enfant lui-même. Hein, la moindre conclusion qu'on puisse faire. Voilà.